Vous écoutez, on lit pour vous.
Les cigales chanteront comme jamais, ou presque. Un texte de Raphaël Germain, paru le 26 janvier 2024 dans La Presse. Un peu plus tard cette année, vers la fin du mois d'avril, les cigales vont commencer à apparaître dans le Midwest américain. Elles vont en fait sortir de la terre où elles dorment depuis des années pour tenter de se reproduire sous le soleil. Jean de La Fontaine était un habile moralisateur, mais un piètre naturaliste. Les cigales ne chantent pas tout l'été. Elles chantent durant quelques semaines et encore. La majorité de leur belle saison se déroule dans le silence du sol où les nymphes se terrent, patientent, à environ 2,5 mètres de profondeur. Certaines espèces attendent 2 ou 3 ans, voire plus, avant de remonter laborieusement jusqu'à l'air libre. On peut facilement se laisser aller à une certaine rêverie en imaginant ces existences recluses, une vie d'antichambre et de coulisses avant le grand spectacle, quelques frénétiques semaines de musique et de sexe, une vraie débauche, et puis, merci, bonsoir, elle meurt, sans jamais avoir senti de nouveau l'étreinte de la terre. Les cigales du Midwest se démarquent par la longueur de leur cycle de vie. 2 couvents se partagent une immense portion du territoire, le 19, appelé aussi Great Southern, qui réapparaît tous les 13 ans, et le 13, au Northern Illinois, dont la période de dormance dure un hallucinant total de 17 ans. Sans doute ahuri lui aussi par la longueur de leur cycle et l'étrangeté de leurs existences, l'entomologiste et naturaliste William Thompson Davis a donné à leur genre le nom de Magicicada, contraction de magic, magie, et cicada, cigale. Déjà donc, en 1925, l'émerveillement était au rendez-vous. Un spin certainement bienvenu pour les relations de presse des cigales, souvent associées dans l'inconscient populaire aux locustes, ces insectes grégaires dont les migrations détruisent des cultures, noircissent les cieux et inspirent chez les mystiques des visions d'apocalypse. Les Magicicada, elles, n'avaient de magique que la force de leur instinct collectif qui poussait des milliards d'entre elles à sortir simultanément de terre tous les 17 ans. Or, cette année, on y arrive, les couvents 19 et 13 vont émerger de leur long sommeil en même temps. Faites le calcul, 13 fois 17, c'est une occurrence qui ne se produit que tous les 221 ans, de quoi plonger dans un substantiel émoi les entomologistes amateurs et professionnels qui, au bas mot, ne se peuvent plus. Comme l'a dit à une journaliste du New York Times, le directeur des collections du département d'entomologie du National Museum of Natural History de Washington, D.C., Floyd W. Shockley, citation, « Personne ne reverra ça de son vivant. That's really rather humbling. » Fin de citation. J'ai de la difficulté à conserver la douceur de sa dernière phrase quand je tente de la traduire. J'arrive avec des formules comme « Ça force quand même l'humilité » ou « ça amène une certaine humilité ». Mais je n'aime pas le verbe « forcer » et il y a dans « amener » un dynamisme qui me dérange. La phrase de Shockley est elle-même très humble. De cette belle humilité passive née de l'observation de la nature, tout en ouverture et en tendresse. La journaliste partage visiblement le sentiment. Elle commence son article en mentionnant que la dernière occurrence a eu lieu l'année de l'achat de la Louisiane par les États-Unis en 1803, alors que Jefferson était président. On pourrait ajouter que Lewis et Clark entamaient leur voyage dans l'Ouest, que Berlioz allait voir le jour et que Napoléon était empereur. Il allait, à la fin de l'année, essuyer une défaite face à l'armée haïtienne menée par Dessalines. Il y avait environ 1 milliard d'humains sur Terre, soit 1000 fois moins que le nombre de cigales qui couvriront le Midwest de leur chant au printemps. La tentation de se projeter dans l'autre sens est forte, évidemment, entraînant avec elle son lot de questions anxieuses. Serons-nous encore là en 2245? La Terre dont se nourrissent les nymphes des cigales depuis des millénaires les bercera-t-elle jusque-là? Au-delà de ces considérations et de ces préoccupations, l'émergence des 2 couvents sera un événement sans grande conséquence sur notre espèce, si ce n'est quelques dégâts dans les jardins, des chaussées jonchées de cadavres de cigales et peut-être le privilège d'assister à la formation d'un nouveau couvent issu du croisement des deux autres. J'ajouterai à cela les germes d'une nouvelle fable qui ferait la part belle à la résilience et à la patience des cigales, ainsi qu'à l'humilité de ceux et celles qui les aiment et les observent. Il y serait question d'espoir et de secrets murmurés au creux de la terre, de la poignante brièveté de l'existence et de l'importance d'écouter le chant du monde pendant qu'on peut encore l'entendre. C'était « Les cigales chanteront comme jamais, ou presque », un texte de Raphaël Germain, paru le 26 janvier 2024 dans La Presse.
Ces billets qui nous rendent racistes et sexistes. Un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 6 mars 2024 dans La Presse. Injuste, moi? Rares sont les gens qui répondront oui à cette question. Nous avons pourtant inconsciemment tendance à favoriser ceux qui nous ressemblent et à percevoir le reste de l'humanité de façon moins indulgente. Voici le troisième volet de notre série sur les billets. Le billet pro-groupe d'appartenance, sa manifestation. Croyez-le ou non, si des chercheurs vous demandaient de remplir une tâche en équipe avec de purs inconnus, vous continueriez sans doute de privilégier vos coéquipiers une fois l'activité terminée. Nous avons en général une préférence pour les membres de notre groupe d'appartenance sans même nous en rendre compte, explique Émilie Gagnon-Saint-Pierre, cofondatrice du guide sur les biais cognitifs raccourcis et doctorante en psychologie cognitive et sociale à l'Université du Québec à Montréal. Une étude a montré que ce favoritisme apparaît avant même l'entrée à l'école. Nous avons aussi une propension à considérer que notre communauté, qualifiée d'endogroupe en recherche, est supérieure même quand la réalité est tout autre. Sa raison d'être. Au cours de l'évolution, les humains ont dû créer des alliances pour augmenter leurs chances de survie. Or, le sentiment d'appartenance renforce la cohésion d'un regroupement et favorise la loyauté de ses membres. D'après Raccourci, les partis pris restreignent par ailleurs l'éventail des choix possibles et donc l'effort cognitif requis quand nous déterminons comment distribuer nos ressources, temps, argent, etc. Ses répercussions. Dans de nombreuses situations sociales, afficher ce billet est injuste et même illégal, puisqu'il défavorise les minorités ou les gens extérieurs à une communauté. Des lois interdisent, entre autres, le népotisme. Voir notre groupe avec des lunettes roses, par exemple, en refusant de croire qu'il promue le racisme, peut de plus nous empêcher de régler les problèmes. Et tout cela peut mener à des conflits avec d'autres groupes, prévient Émilie Gagnon-Saint-Pierre, dont les recherches portent sur les relations entre groupes. Un exemple québécois. Après les meurtres rapprochés d'un adolescent blanc et d'un adolescent noir, Thomas Trudel et Janai Dopwell-Bailey, à Montréal en 2021, le premier ministre François Legault et la mairesse Valérie Plante ont publiquement rendu hommage au premier, mais non au deuxième. Cela a envoyé le message que la vie d'un enfant blanc est plus valorisée que celle d'un enfant noir, ont dénoncé de nombreux experts des relations raciales. D'après ce qu'ils ont dit à CBC, bien que les deux politiciens s'en soient défendus, ils ont également pu être influencés par les stéréotypes très durs sur la déviance et la délinquance, associant les enfants noirs à la criminalité et aux gangs, ce qui serait alors la marque des deux autres billets présentés ci-dessous. Son antidote. Reconnaître notre penchant pour les membres de notre cercle peut nous aider à combattre le favoritisme. Mais les biais étant souvent inconscients, des mesures comme l'évaluation anonyme des candidats à certains postes servent à éviter que notre cerveau nous joue des tours. Les biais d'essentialisme et de l'homogénéité des groupes autres. Leurs manifestations. De nombreuses blagues sur les femmes, les comptables, etc., trahissent une vision réductrice de certains groupes. Cette perception simpliste infiltre également la publicité. Deux biais très communs l'expliquent. Nous tendons tout d'abord à sous-estimer la disparité des individus issus de communautés autres, baptisées exogroupes en recherche, et à les imaginer tous pareils. Nous croyons aussi trop souvent que les groupes sociaux diffèrent les uns des autres de façon essentielle et immuable. Ce présupposé serait plus répandu chez les personnalités autoritaires, qui voient le monde de manière rigide et hiérarchique, précise Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Leur raison d'être. Présumer qu'on peut prédire les caractéristiques des membres d'autres communautés nous protège contre la fatigue mentale en nous dispensant de traiter une déferlante d'informations complexes sur chaque individu, ce qui nous permet de consacrer plus d'énergie cognitive aux interactions avec notre groupe d'appartenance. Et explique en partie pourquoi distinguer les visages de gens d'origine différente apparaît plus difficile. Les stéréotypes et préjugés peuvent par ailleurs agir comme un ciment social, car ils semblent malheureusement rapprocher ceux qui les partagent. Leurs répercussions. Les stéréotypes réduisent l'empathie, indique le guide raccourci. Observer une aiguille piquant la main d'une personne provoque une réaction physiologique plus faible quand cette main est d'une autre couleur que la nôtre. L'essentialisme conduit aussi au racisme, au sexisme, à l'âgisme, etc. Quantité de gens se voient ainsi refuser l'accès à un emploi ou à un logement pour des motifs discriminatoires. Et les tribunaux sont peuplés de suspects ayant fait l'objet de profilages, des préjugés voulant que leurs origines les rendent intrinsèquement délinquants. Les stéréotypes font par ailleurs accepter les inégalités. Ils peuvent même mener à excuser des crimes sexuels ou à justifier les génocides, prévient raccourci. Un exemple canadien. En 2019, la Cour suprême a dû ordonner la tenue d'un nouveau procès en Alberta, car la victime d'un meurtre, Cindy Gladue, morte au bout de son sang, avait été décrite à répétition comme la fille autochtone par les témoins et les avocats des deux camps. La défense de son agresseur reposait en prime sur de multiples préjugés à l'égard des Premières Nations et des travailleuses du sexe, laissant entendre qu'elle avait consenti aux sévices. Le juge avait malgré tout omis d'indiquer au juré que les origines et le gagne-pain de cette femme n'étaient pas pertinents et ne devaient pas influencer le verdict. Leurs antidotes. Les préjugés peuvent mener à une diminution de l'intérêt à interagir ou à créer des amitiés au sein de groupes différents du nôtre. Mais nous devons combattre ce réflexe, indique le guide raccourci. Car moins les échanges interpersonnels avec les membres d'autres communautés sont fréquents, plus les préjugés se manifestent. Le guide suggère donc de diversifier notre réseau et de mieux nous informer pour réduire ces biais. C'était « Ces biais qui nous rendent racistes et sexistes », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 6 mars 2024 dans la presse.
Conneries, le temps ne fait-il vraiment rien à l'affaire ? Un texte de Sébastien Dieguez, paru le 15 février 2023 dans le magazine Cerveau et Psycho. Dans cette chanson, Georges Brassens semble dire que les cons sont condamnés à le rester. Est-ce si sûr que cela ? OK, Boomer. En 2019, ce slogan avait affolé les réseaux sociaux nouvel avatar des clivages générationnels, il permettait de discréditer à peu de frais la parole des plus anciens d'entre nous. Jugé sexiste, pollueur, privilégié, réactionnaire, égoïste et généralement ringard, les baby-boomers, cette génération née entre 1945 et 1960, pouvaient désormais être congédiés en une phrase lapidaire signifiant en gros « C'est bon, on t'a entendu, le fossile, mais tu ne nous intéresses pas » ou, pour le dire plus brutalement, « Ta gueule, vieux con ». Mais n'est-ce pas une démonstration de plus de l'insolence et de l'ignorance historique des nouvelles générations, successivement appelées « milléniales »,« X, Y et Z » Savent-elles seulement ce qu'est un boomer? N'y a-t-il pas un côté puéril à s'en prendre ainsi aux personnes en fonction de leur âge? Décidément, il n'y a plus de jeunesse, ou pour parler plus franchement, quelle bande de petits cons! Ainsi posés, les termes du débat ne sont guère encourageants. Surtout, ils ne sont pas très neufs. On trouve aisément des propos semblables dans l'Antiquité, critiquant l'arrogance et l'incurie de la jeunesse, ou décriant l'immobilisme et l'incompétence des aïeux. Sommes-nous vraiment condamnés à passer du statut de jeune con immature à celui de vieux con gâteux, sans autre espoir de changement? Pour examiner cette question, peut-être vaut-il la peine d'entendre l'impartial message d'un observateur qui balance entre deux âges. Il s'agit bien entendu de Georges Brassens, qui, alors âgé de 40 ans, avait posé ce diagnostic en 1961 « Quand on est con ». Lui-même a connu une carrière suffisamment longue pour vivre les affres des soubresauts générationnels. D'abord idole de la jeunesse rebelle et contestataire, il est devenu le symbole ringard de la chanson pour vieux, avec l'avènement du rock et du disco. Mais le sens de son impartial message reste relativement ouvert à l'interprétation. Qui sont donc les cons qu'il brocarde? Et le temps ne peut-il vraiment rien pour eux? Cons fluides et cons cristallisés. Disons-le tout de suite, il n'existe pas d'études psychologiques sur la connerie en tant que telle, ou en tout cas, pas de champ constitué sous ce terme. Dans le langage courant, le mot est assez polysémique, désignant tantôt une intelligence limitée, tantôt un comportement moralement répréhensible. Commençons donc par la question délicate de l'intelligence. Les jeunes cons et les vieux cons de Brassens aurait-il simplement un déficit de QI? Si c'était le cas, alors il y aurait en effet de fortes chances pour que ce soit les mêmes. En effet, les rares données longitudinales dont on dispose indiquent une étonnante stabilité des différences de QI entre les gens. Dans une étude célèbre, menée lors des années 2000, le psychologue Ian Deary est parvenu à retrouver la trace d'une centaine de vieillards âgés de 92 ans en moyenne qui avaient pour point commun d'avoir subi un test d'intelligence en 1921 lorsqu'ils avaient 11 ans. En les retestant avec la même épreuve, il a constaté une forte corrélation entre leurs classements respectifs, une personne plus intelligente qu'une autre à 11 ans, l'est encore à 92. Pour autant, individuellement, le QI évolue à travers la vie. Les recherches indiquent ainsi qu'il augmente avec l'éducation, mais qu'il décline, hélas, assez systématiquement avec l'âge. Dès 30 ans, les points d'intelligence s'évaporent et le phénomène s'accélère à partir de 60 ans, même s'il est possible de ralentir ce déclin par une bonne alimentation, une pratique sportive régulière, de solides liens sociaux et une certaine curiosité intellectuelle. Toutefois, si les blancs-becs peuvent bien se moquer des têtes chenues, c'est uniquement sur les mesures qui exigent de la rapidité et beaucoup de concentration ou qui concernent des tâches peu familières. Les psychométriciens parlent d'intelligence fluide à distinguer de l'intelligence cristallisée. Cette dernière porte plutôt sur les connaissances générales, le vocabulaire et certaines capacités de calcul qui tendent à rester stables et même à augmenter quand on prend de l'âge. Autrement dit, on gagne en expérience et en maturité intellectuelle ce qu'on perd en vivacité cognitive dans le traitement de l'information. Cependant, on conçoit mal qu'un auteur aussi subversif que Brassens s'intéresse simplement à des questions de QI. Il y a en effet des gens très intelligents, et même des prix Nobel, qui se sont illustrés par des opinions particulièrement stupides, et nombre de génies seraient aisément qualifiables de gros cons pour leur comportement dans leur vie intime. Le con, en effet, est surtout quelqu'un dont on juge l'attitude répréhensible ou immorale. Le plus gros connard. Des chercheurs nord-américains ont alors tenté d'établir son profil type simplement en demandant à près de 400 personnes de décrire le plus gros connard, « biggest asshole » qu'elles connaissent. Il en ressort que c'est, en moyenne, un homme de 42 ans, époux, copain, collègue, chef, ami, membre de la famille. Les 1203 exemples recueillis livrent une taxonomie de ses comportements. Il est agressif, colérique, arrogant, raciste, insensible, pénible, exigeant, immature, grossier, irresponsable, manipulateur et, évidemment, rien n'est jamais de sa faute. Les chercheurs notent que ce profil ressemble à s'y méprendre au diagnostic de personnalité antisociale et narcissique. Si la moitié des participants avaient coupé les ponts avec leur plus gros connard, les autres devaient malheureusement encore le fréquenter. La théorie du philosophe Aaron James est également instructive. Le connard y est défini comme un individu qui s'attribue systématiquement des privilèges particuliers dans ses interactions avec autrui sur la base d'un sens inébranlable de son droit à de tels privilèges qui l'immunise contre les griefs des autres personnes. C'est probablement ce type de personnage qu'avait Brassens en tête, ces gens très sûrs d'eux qui se pensent exceptionnels et s'arroge le droit à un traitement spécial. En anglais, ce trait de caractère s'appelle « entitlement », la tendance à s'attribuer des passe-droits abusivement, une facette du narcissisme, mais qui ne s'y réduit pas exclusivement. La mécanique du con. Après avoir examiné les recherches sur ce trait, les chercheurs américains Joshua Crubbs et Julie Exline ont proposé un modèle permettant de mieux cerner le connard. Celui-ci se défendrait contre la perpétuelle souffrance de ne pas être reconnu à sa juste valeur dans la mesure où ses attentes sont irréalistes. Son égo étant constamment menacé par des gens qu'il juge inférieurs, il en déduit qu'on cherche à lui nuire par jalousie et redouble alors d'arrogance pour s'imposer, ce qui suscite déception, problèmes relationnels et détresse, dont il lui faudra à nouveau se protéger. Il est donc engagé dans une sorte de cercle vicieux, condamné à exacerber son statut de connard pour se protéger des conséquences de son propre comportement. On manque malheureusement de données pour déterminer si ce mécanisme infernal se renforce avec l'âge. Il semble néanmoins que le narcissisme en général décroisse légèrement à mesure qu'on vieillit, peut-être parce qu'on a moins besoin d'affirmer son statut et qu'on vit moins dans la compétition avec des rivaux que les adolescents et les jeunes adultes. De même, il est possible de cultiver des vertus comme l'empathie, l'humilité, la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Autant de clés pour apprendre à s'enrichir auprès des autres générations en s'intéressant à elles et en acceptant leurs différences. Bref, pour devenir moins con. L'illusion de la fin de l'histoire. Encore faut-il le vouloir. Or, un phénomène appelé « illusion de la fin de l'histoire » constituerait un obstacle sur la voie du changement tout en exacerbant les conflits générationnels. De 18 à 68 ans, il semble en effet que tout le monde se figure être enfin devenu la personne qu'il doit être. Les recherches initiales sur le sujet, publiées en 2013, ont porté sur près de 20 000 personnes d'âge varié auxquelles on posait deux questions simples. À quel point avez-vous changé ces 10 dernières années et à quel point pensez-vous changer ces 10 prochaines années? Or, les gens pensent toujours qu'ils ont davantage changé par le passé qu'ils ne le feront à l'avenir, et ce, quel que soit leur âge. Comme si, à chaque moment de notre vie, nous pensions que notre identité a enfin atteint un point idéal. Évidemment, si nous sommes tous ainsi certains d'être à notre apogée, il devient difficile d'envisager de changer et de communiquer sereinement entre générations. L'illusion de la fin de l'histoire nous rassure peut-être en stabilisant notre sens de l'identité, mais elle nous rend du même coup myopes quant à nos possibilités d'évolution et nous aveugle aussi sur le fait que nous puissions nous tromper ou surestimer le degré de nos convictions. C'est peut-être ce qu'avait saisi Brassens. Le problème n'est pas tant que le con est incapable de changer, mais plutôt qu'il n'en voit pas l'intérêt. Ce que nous dit alors l'omniprésence de l'illusion de la fin de l'histoire, c'est qu'aucun de nous n'est à l'abri de cette tentation. La première étape consiste donc, sans doute, à identifier et reconnaître sa propre connerie pour, comme Brassens nous y encourageait, apprendre à en rire. C'était « Connerie, le temps ne fait-il vraiment rien à l'affaire ?» un texte de Sébastien Dieguez, paru le 15 février 2023 dans le magazine Cerveau et Psycho.